Chapitre 11, première aventure. En ce temps-là, Michel n'avait ni regret ni désir. Ce fut plus tard seulement que naquirent ses vagues souvenirs de sa petite enfance. La tranquille vallée où était la ferme et le coteau charmant que l'église coiffait de son clocher formaient pour lui tout l'univers. Il excellait à tresser les fouets de corde et ces bandes dentelées qui font les chapeaux de paille. Au printemps, il tombait droit sur les nids de fauvettes comme un chien sur sa prise. Le bonhomme et la bonne femme pêchaient, ne le faisaient pas plus travailler qu'il ne fallait pour l'éreinter. On ne lui reprochait pas trop durement le pain qu'il mangeait, et ceux du bourg convenaient déjà qu'il était un beau petit gars. La ferme faisait partie d'un domaine considérable que la Révolution n'avait point morcelé et qui appartenait à un très vieux gentilhomme vivant à Paris. Le vieux gentilhomme vint à mourir sans postérité. Un demi-cent d'héritiers normands s'abattirent aussitôt sur son héritage et les tribunaux ordonnèrent la mise en vente du domaine. C'est le moment où prennent leur vol ces corbeaux mangeurs de châteaux qu'on appelle la bande noire, vendeurs à la livre de pierres sculptées. Arrivèrent de Paris à la queue leu-leu 15 ou 20 iconoclastes patentés, bien élevés, bien couverts, pour tâter le bon vieux domaine et voir un peu par quel joint on pourrait le dépecer proprement. Il y avait dans la maison peu de logis convenables pour abriter de si galants seigneurs. Le père Péché fut l'hôte d'un jeune banquier de la chaussée d'Antin qui se nommait Monsieur Jean-Baptiste Schwartz et dont l'habileté proverbiale augmentait rapidement sa fortune déjà très considérable. Monsieur Schwartz, selon son habitude, jugea l'affaire d'un coup d'œil. C'était une manière d'aigle pour les choses de la spéculation. Ayant jugé l'affaire, il voulut tuer le temps et demanda un guide qui peut le mettre en rapport avec 2 ou 3 compagnies de perdrix. Le père Péché lui donna Michel, et Michel lui fit exterminer une demi-douzaine de pièces. Monsieur Schwartz, qui n'avait jamais opéré pareil carnage, trouva le petit garçon charmant. Il causa avec lui en revenant à la ferme, et l'intelligente naïveté de Michel le charma. Les Parisiens, lors même qu'ils portent les noms les plus foncés de l'Alsace, sont sujets à tomber de leur haut quand ils rencontrent autre chose que des ânes à quelques lieues de la place Saint-Georges. Monsieur Schwartz interrogea le père Péché en mangeant sa propre chasse, délicieux festin, et Michel put apprendre qu'il était étranger, orphelin, et qu'on le gardait à la ferme par charité. Ce fut l'expression de ce bon père Péché. Michel, en écoutant cette révélation qui lui donnait à réfléchir pour la première fois de sa vie, peut-être, eut une idée hardie. « Emmenez-moi, dit-il à Monsieur Schwartz, je vous ferai tuer des perdreaux tous les jours à Paris. » Monsieur Schwartz éclata de rire, il était d'excellente humeur et annonça au père Péché qu'il allait prendre le petit bonhomme avec lui. « Bon débarras, connaissez-vous la Normandie ?» Le père Péché demanda 100 écus pour lâcher Michel. Tout à l'heure, il disait de Michel, « une charge bien lourde pour de pauvres gens dans la campagne. » Si vous ne connaissez pas la Normandie, qui est un charmant pays, allez en Bretagne, en Flandre ou en Bourgogne. La Normandie est partout au village et point de Normandie sans père Péché. Ah, le brave homme! Monsieur Schwartz, ayant donné les 100 écus, tant ces perdreaux lui semblaient délicieux, le père Péché entonna une lamentation comparable aux plus beaux pleurs de Jérémie. « Oh là là, mon Dieu, quel enfant est-elle plaisir de chez nous, qu'on chérissait, qu'on caressait, qu'on ne pourrait point s'accoutumer et à ne plus le voir, là !» Et la bonne mère Péché entonna une lamentation comparable aux plus beaux pleurs de Jérémie. « Je l'aimons plus mieux qu'un fieu à nous en propre. Faut séparer de l'enfant, aimez-lui, mon Dieu, d'où Jésus dit. » Cela coûta 100 autres écus, et M. Schwartz fut obligé de se sauver pour garder en poche le prix de son retour. Madame Schwartz, une ravissante créature, s'il en fut, resta d'abord tout étonnée du résultat de ce voyage. Elle avait une jolie petite fille de 6 ans, et certes, ce n'était pas pour aller acheter un enfant adoptif que M. Schwartz avait pris la diligence de Normandie. Michel fut reçu comme une graine de valet de chambre. On le mit à l'école et au grenier. Les fantaisies campagnardes ne tiennent pas à Paris, où l'art d'approcher les compagnies de perdrix devient inutile. Au bout de 8 jours, Michel, à peu près oublié, ne reconnut plus qu'un seul maître et protecteur, le puissant Domergue, qui avait déjà sa livrée gris de fer. Monsieur Schwartz habitait un très bel appartement rue de Provence. On était en train de lui bâtir son premier hôtel. Domergue logea Michel dans une petite mansarde. C'était un très digne garçon que ce Domergue. Pendant 2 ans, il demanda au moins une fois par mois à son protégé « Quand est-ce que tu sauras lire ?» Michel regretta bien un peu le père péché, mais une occupation lui vint juste au moment où des idées de fuir naissaient dans sa jeune cervelle. Un soir, dans la mansarde voisine de la sienne, Michel entendit le son d'un piano. Il avait 12 ans et il devait se souvenir de ce fait toute sa vie. Il n'y avait qu'une cloison de planches entre lui et l'instrument. Michel écouta comme si les notes lui eussent parlé. Une voix amie s'élevait dans le silence de sa vie solitaire. Dès ce premier moment, il aimait cet harmonieux sourire qui se glissait dans sa prison. Il dormit peu cette nuit. Il se leva de bonne heure, ayant un but et un espoir. Aux arpèges et aux gammes, un frais babil d'enfant s'était mêlé. Michel était certain d'avoir déjà une petite voisine. Une voix plus grave avait prononcé le nom d'Edmé. Quelle jolie chose qu'un nom! Michel aurait donné tout au monde pour voir Edmé, lui qui au monde n'avait rien. Mais Edmé ne sortait jamais, ou peut-être sortait-elle aux heures où Michel était en classe. Une grande semaine se passa sans que Michel aperçût la fille ni la mère, car il est bien certain que l'autre voix appartenait à la mère. Il n'osa interroger le concierge, qui le glaçait de respect. Tous les soirs, le piano chantait. Michel savait déjà qu'elles étaient pauvres. De l'autre côté de la cloison, la mère avait dit une fois « Couche-toi, mon Edmé, pour économiser la chandelle ». Certes, Michel ne savait pas que le mot « chandelle » avoue la gêne plus cruellement encore que le mot « économie » lui-même. Et puis, la pauvreté, quel grand mal! Michel n'était pas riche, pourtant il eut le cœur serré. On était en hiver. La gelée mettait des feuillages de cristal aux croisées de sa mansarde, eux, ils ne s'en apercevaient guère. À la ferme aussi, maman Péché se montrait impitoyable pour les prodigalités de chandelles. Mais comment voir Edmé? Michel en perdait l'esprit. Son premier tour d'écolier vint de là. Depuis qu'il avait quitté la campagne, Michel n'était plus l'enfant rieur, le patour hardi. Paris l'opprimait et l'effrayait. Le maître de sa classe lui semblait être un géant. Il regardait d'en bas ce puissant monsieur Domergue à des hauteurs que nous ne saurions point mesurer. L'espièglerie était morte en lui en même temps que la gaieté. Aussi ce fut en tremblant bien fort qu'il acheta une vrille de 2 sous, à l'aide de laquelle il força un tout petit pertuis dans la cloison de planches. Le trou fait, il fut obligé de s'asseoir tant le cœur lui battait. Il n'osait pas y mettre l'œil. Quand il prit enfin son courage à 2 mains, vous eussiez dit qu'il allait commettre un crime. Il ne vit rien d'abord, parce que son émotion l'aveuglait, puis un mouvement qui se fit dessilla ses yeux et il aperçut une femme en deuil, au visage triste et doux. Un religieux respect le saisit. C'était la mère d'Edmé. Elle était assise auprès d'une table et tenait à la main une lettre ouverte. Ses paupières avaient des larmes. Michel sentit que ses yeux se mouillaient. Mais ce n'était pas pour voir la mère d'Edmé qu'il avait percé la cloison. Où donc était Edmé? La mère pleurait toute seule. Elle reprit la lettre déjà lue et la parcourut de nouveau. Michel commençait à être un savant. Une lettre relevée lui montrait son adresse. Il put laborieusement épeler à Madame Leber. Edmé Leber? Où gît l'harmonie de certains accords? Quand ce nom passa entre les lèvres de Michel, ce fut comme la musique d'un baiser. Il y avait déjà 2 ans que le petit paysan vivait seul dans la mansarde. Or, la mansarde entraîne avec soi la poésie est la fleur des greniers. Il ne savait pas, notre héros Michel, combien il faut de pieds pour faire un verre. Qu'importe. Une porte s'ouvrit tout à coup de l'autre côté de la cloison, et je ne sais quel rayon inonda la chambre. Tout s'y mit à sourire, même le deuil de la mère. Une blonde enfant, dont les cheveux libres s'épanouissaient comme une gloire autour de son front, s'élança joyeuse et jeta ses 2 bras au cou de Madame Leber. Michel reconnut Edmé, il l'attendait ainsi. Seulement, il ne l'avait pas souhaité si jolie. Madame Leber cacha la lettre qui lui avait mouillé les yeux. Elle prit un ouvrage de couture, et la petite fille, Edmé, qui n'avait que 10 ans, s'assit au piano. Michel oublia de descendre à l'office pour chercher son dîner. La nuit seule l'arracha de son poste. Je n'ai pas le temps de vous énumérer toutes les choses qu'il avait vues pendant les longues heures de cet espionnage coupable et charmant. Une seule importe à notre histoire. Il gelait à pierre fendre, je l'ai dit. Le foyer de Madame Leber avait 2 maigres tisons qui allaient s'éteignant. La mère frissonnait en poussant son aiguille. Les petits doigts d'Edmé étaient tout rouges sur la blancheur des touches d'ivoire. « Elle a froid !» se dit Michel avec une véritable horreur, lui qui se moquait du froid comme de la lune. « Elle avait froid !» Edmé, la chère enfant, au front d'ange, couronné par cette auréole de cheveux blonds, elle avait froid, Madame Leber aussi. Michel fut blessé au plus profond de son âme et s'indigna. On brûlait tant de bois inutile chez les Schwartz. Ce fut une nuit sans sommeil. Michel s'agitait depuis le soir jusqu'au matin sur son dur matelas. Son esprit travailla. En se levant, il avait un plan fait. Au lieu d'aller à l'école, il marcha droit devant lui, dans Paris inconnu, pensant bien qu'il trouverait une forêt. Madame Péchet l'avait souvent envoyé au bois. Il savait comment s'y prendre pour faire un bon fagot de branches mortes, et il se disait « Edmé n'aura plus froid ». On peut marcher longtemps dans Paris sans trouver à ramasser gratis quoi que ce soit qui réchauffe, qui désaltère ou qui nourrisse. Michel dut s'avouer cela. Il alla pourtant 2 bonnes heures, et c'était toujours des maisons. Il vit bientôt des choses nouvelles, mais point de fagots, sinon chez les marchands. Au bout de 2 heures, il trouva la barrière, et au-delà, des maisons encore, plus laides seulement et plus pauvres. Où donc était l'herbe? Dieu soit loué, voici une grande plaine blanche de neige. La neige, c'est déjà une connaissance. Il aimait bien la neige en Normandie. Mais la forêt... Loin, bien loin, des arbres moutonnaient à l'horizon. Michel sangla autour de ses reins la corde qu'il avait prise pour lier son fagot et hâta sa course. Il atteignit ainsi, le vaillant petit homme, les bois de Montfermeil. Et quelle joie de voir enfin des chênes! Quand le pâle soleil d'hiver descendit à l'horizon, Michel avait son fagot, un bon fagot, qu'il chargea sur ses épaules en chantant. Heureusement que le garde se chauffait les pieds dans sa loge. Michel reprit le chemin de Paris. Il avait l'estomac creux, mais le cœur content. Sur l'air de quelque Noël normand, qui jamais n'avait eu de si joyeuses paroles, il allait, psalmodiant, tout le long de sa route. « Edmé n'aura plus froid, Edmé n'aura plus froid. » Les préposés de la barrière lui dirent qu'il avait bien là pour 15 sous de bois mort. Ils sont calomniés, ces hommes verdâtres. Michel les trouva braves gens, 15 sous de bois mort. Chez M. Schwartz, Michel ne manquait de rien, mais il ne voyait pas beaucoup plus d'argent monnayé qu'en Normandie. Son grenier était à 100 lieues de la caisse. Dans le faubourg Saint-Martin, il s'assit sur un trottoir. Sa fortune l'écrasait. 15 sous de bois mort pèsent gros, je vous prie de le croire, quand on les apporte de Montfermeil. Mais, bah, Michel arriva rue de Provence en chantant, vers 10 heures du soir. Il y avait longtemps que la mode de Michel était passée chez le banquier. Cependant, on s'était inquiété de lui. Doumergue avait dit « Le petit n'est pas venu chercher son dîner ». Madame Schwartz, qui était presque aussi bonne que belle, demanda 3 fois dans la soirée s'il était de retour, et monsieur Schwartz parla d'envoyer à la préfecture. Quand Michel rentra avec ses 15 sous de bois mort, le concierge appela. Les domestiques vinrent dans la cour, ce fut un événement. Où avait-il volé ce fagot? L'histoire du fagot monta jusqu'au salon. Mademoiselle Blanche, qui avait 7 ans, voulut voir le fagot. Au salon, le fagot eut beaucoup de succès. Michel avait grandi. Monsieur Schwartz eut de la peine à le reconnaître, et Madame Schwartz le trouva charmant garçon. L'idée d'aller faire du bois à Montfermeil parut tout à fait originale. « L'enfant a froid là-haut, » dit Madame Schwartz, « il faudra mettre un poêle dans sa chambre. » « Ah ça !» s'écria le banquier en éclatant de rire. « Pas de cheminée, alors, impayable. Aller mettre le feu à la maison, tout simplement. Comique. » Un mot vint aux lèvres de Michel, mais il eut la force de l'arrêter au passage et son grand secret resta en lui. Dès le lendemain, Domergue fit installer un petit poêle de fonte dans sa mansarde. Outre son fagot, il eut une bonne provision de bois. Mais notre héros Michel ne pouvait pas chauffer les pauvres belles mains rouges d'ennemi par les 3 pertuis de vrille qu'il avait pratiqués à la cloison. Vous allez bien voir que c'était un héros. Michel avait remarqué que sa jeune voisine s'absentait quotidiennement vers les 2 heures de l'après-midi pour rentrer entre 4 et 5 heures avec un livre de musique sous le bras. Elle aussi allait à l'école. Un professeur célèbre lui donnait des leçons gratuites. Michel n'était pas connaisseur en musique et se bornait à trouver charmant tout ce que faisait Edmé, mais nous pouvons dire dès à présent qu'il y avait en Edmé l'étoffe d'une véritable artiste. Ses jours d'hiver sont courts. Madame Leber, seule et fatiguée par un travail ingrat, avait coutume de s'assoupir à la brune. Fort de ce double renseignement, Michel combina et mit à exécution un plan qui acheva de le rendre célèbre dans la maison Schwartz.